nouvelle émission de Cinéma Talk, une émission consacrée ce soir à Bruno Dumont. Bruno Dumont, ce réalisateur que l'on a vu il n'y a pas si longtemps sur La Croisette avec son film Maloute qui est toujours à l'affiche. Bruno Dumont est reparti cette année sans aucun prix, mais il en a eu beaucoup à Cannes. Bruno Dumont, ce réalisateur hors catégorie, hors norme, qui divise souvent et ne laisse en tout cas personne indifférent. Plutôt intimidant, le bonhomme, à vrai dire. Alors, pour visiter son œuvre, on va piocher dans ses propos, dont il n'est pas avare, lui qui fut prof de philo avant d'être réalisateur, dans les voix des critiques qui l'ont autant encensé que démonté. Et enfin, même si son cinéma est très peu dialogué, laissant une grande place au son des éléments naturels, vent, mer, feu, et très avare aussi en musique extra-diégétique, nous allons quand même écouter quelques extraits tout au long de cette émission. Et on commence par ce morceau du compositeur Guillaume Lequeux, un compositeur de la fin du 19e siècle, avec ce morceau Barberine qui est dans Maloute. Donc on écoute. Et donc, on va commencer cette évocation du cinéma de Bruno Dumont avec la fin, avec donc son dernier film, lui qui en a fait 9 au total. Alors, Bruno Dumont, lui, qui est repéré comme un auteur de drames arides, rugueux, mettant en scène des acteurs non professionnels, le voilà pour la seconde fois dans la comédie, avec un film historique, son second également, à la distribution de stars. Juliette Binoche, Fabrice Luchini, Valeria Bruni-Tedeschi et Jean-Luc Vincent, et plus, bien entendu, toujours des acteurs non professionnels, comme il aime à s'en entourer. L'action se passe été 1900 dans la baie de la Slack, dans le nord de la France. De mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et son sagace Malfoy mènent, ou plutôt malmènent, l'enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux au cœur d'une étrange et dévorante histoire d'amour entre Maloute, fils aîné d'une famille de pêcheurs aux mœurs bien particulières, et Billy, fille ou garçon, on ne sait pas, de la famille Van Petegem, riche bourgeois lillois décadent. Et donc cette musique est utilisée pour la romance qu'il va y avoir entre Maloute et Billy. Maloute, comme il était à Cannes il n'y a pas longtemps, on a pu entendre Bruno Dumont en parler. Et on va l'écouter, on va écouter ce que Bruno Dumont en dit tout de suite.
Côte ! Oui, regardez là-bas, ces cueilleurs de moules !
Qu'est-ce que pue cette carriole ?
Oh, comme c'est pittoresque !
La glycine ! Elle a pris 2 mètres !
Tout pousse, André. Tout pousse.
Et mon petit frère, comment va-t-il? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais.
J'entends, vous venez tous les ans.
Hein. Et toi, tu t'appelles comment?
Maloute.
Maloute. Qu'est-ce à dire, Maloute?
Je sais pas, madame. C'est comme ça que je m'appelle.
C'est ici que cette personne aurait disparu, chef.
Ça commence à sortir le roussi, là, hein?
Bon, les personnes ont disparu dans la baie?
C'est terrifiant, André!
Il n'y a rien à craindre, enfin! Allons! La police est à pied d'œuvre maintenant!
Hé là! T'as trouvé quelqu'un? Toi, je comprends pas, qu'est-ce que t'es dit? À tout de l'eau!
Alors, c'est une affaire très mystérieuse! Sans cadavre!
Tu n'as pas peur de disparaître?
Tu nous protégerais, n'est-ce pas, Maloute?
Où les cœurs, où les cœurs!
Je comprends rien, là.
des gens bizarres.
Un doigt de Wissoki.
Et hop là.
Une lymphomane, une nudiste et des disparus.
Dans toute cette histoire, il y a une providence. Ceux qui sont sauvés et les autres.
Manout.
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 Et comme le disait papa, nous sommes des bons petits gamolatou. Et à ce titre, arrive ce qui arrive.
Bruno Dumont, vous avez, qu'est-ce que vous, vous avez voulu raconter quoi? Une histoire de fou?
Oui, j'ai voulu raconter une histoire de dingue, avec néanmoins une histoire d'amour, une histoire policière, une histoire cruelle, une histoire merveilleuse, dont j'ai voulu mélanger toutes les couleurs et faire un film coloré.
Parce que le film est très situé par des détails de costumes, de voitures, etc. En même temps, il y a une intemporalité
voilà.
du film.
Mais l'intemporel, on ne peut pas le filmer. Donc, il faut toujours passer de la Terre. Donc, de passer. Donc moi, je me suis inspiré, effectivement, des costumes de l'époque, des mœurs de l'époque. Mais tout ça pour parler d'autre chose, en fait. Moi, j'ai toujours parlé d'autre chose. Je filme toujours quelque chose pour parler d'autre chose. Donc là, c'est effectivement essayer de rentrer à l'intérieur de ces personnages fabuleux. Et c'est pour ça que je les ai grossis autant, pour que vous puissiez bien les voir sous l'optique. Alors jusqu'à présent, je travaillais avec un télescope, et maintenant je travaille avec un microscope, donc je grossis énormément les traits. Mais ce qu'on voit, j'espère, c'est nous, c'est moi.
Vous vous aventurez souvent, et ça a beaucoup surpris à l'époque, moi maintenant, mais dans ce qu'on appelle le comique. Mais est-ce que vous avez le sentiment que cette puissance comique... elle était déjà à l'œuvre dans vos précédents films, La vie de Jésus, Hors Satan, etc.
Oui, parce que je pense que le drôle, c'est un degré du drame, en fait. Il suffit de pousser un drame, de le faire dévier, et on rentre dans le drôlatique. Donc le drôlatique, c'est un échec, en fait, du drame. C'est quelque chose qui ne réussit pas, et qui nous fait rire. Ah oui, quelqu'un qui tombe, ça fait rire, parce que normalement, il ne devrait pas tomber. Et donc on a peur pour lui, et c'est rigolo. Et je trouve que ce rigolo est très profond. C'est-à-dire, moi, je découvre avec étonnement que la comédie n'est pas un art mineur du tout. Au contraire, c'est un art très noble. Moi, ça m'oblige à faire beaucoup plus attention à mes cadres, au son, tout ça. Donc, ça mobilise énormément le cinéma, en fait.
Pourquoi plus attention?
Mais parce que comme on grossit, grossit les traits. Mm-hmm. Il faut entendre très fort. Donc, j'ai jamais fait de film avec du bruitage, par exemple. Moi, mes premiers films, c'était du son direct. Mm-hmm. J'essayais de tout partir. Au mixage, j'avais un bouton. Je montais, je descendais. Sur Maloute, j'ai une table de mixage avec 80 boutons. Il y avait effectivement, depuis longtemps, une envie de rester, de me cloisonner dans le drame. Et là, j'ai ouvert une vanne. Et en fin de compte, le comique est juste à côté. Et c'est un succès d'année du drame, en fait. C'est-à-dire que le comique, c'est une échelle qui monte et qui descend. Le drame est contenu dans le comique, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je m'en suis aperçu, déjà, je le sentais dans l'humanité, c'est-à-dire même dans l'humanité, le policier est bizarre, quoi. Il est curieux, il y a déjà du grotesque qui est là. Mais je n'osais pas, peut-être. Là, je vois mieux ce que je fais. Voilà, et je sens que je peux appuyer. C'est-à-dire, je peux appuyer et je peux faire joindre effectivement une violence et juste derrière une pirouette. Et je suis très surpris de la coexistence des deux. C'est-à-dire, comment la pirouette donne de la matière à la violence. Effectivement, ça lui retire son épine. C'est-à-dire qu'on accepte beaucoup mieux. Pourtant, le film, il parle de choses assez terrifiantes, mais on accepte ça bien. Et c'est ça l'ironie, justement, c'est réussir de faire passer des choses graves par cette espèce de légèreté qu'est le comique. Et je pense que ça nous embrasse tel qu'on est. C'est-à-dire, on est aussi mélangé. Voilà, on est à la fois des salauds et des saints. On est à la fois des crétins et des génies. Et cette coexistence me passionne. Et je n'arrête pas de filmer pour voir où ça se trouve. Et j'ai pas encore trouvé, et je filme, voilà, pour voir, pour vous donner à voir, pour y trouver du plaisir, pour s'amuser, mais on peut aussi penser en même temps, c'est pas, pourquoi pas.
Alors, Alors Maloute serait le film grand public de Bruno Dumont. Oui, sans doute, on peut dire oui quand même, mais c'est pas si simple, trop outrancier, trop de caricatures, trop délirant, trop relâché. Pour cette deuxième intrusion dans la comédie, Bruno Dumont n'y va pas à moitié. Il évoque, lui, comme influence, le carnaval qui tient une place très importante dans la culture du Nord. Et le travestissement qui va avec, eh bien, au cœur du film. Mais donc, le film divise, provoque des questionnements. Est-ce que Bruno Dumont s'est perdu, disent les amoureux de Bruno Dumont de la première heure, qui aimait son cinéma aride. Trop grand public, trop de figures connues, on n'est pas habitué. Enfin, on peut dire que l'œuvre de Bruno Dumont n'a jamais laissé personne indifférent. C'est vraiment toute sa filmographie qui est traversée comme ça de grands débats critiques. Et dès le début, il est là où on ne l'attendait pas, puisque d'abord, Bruno Dumont ne vient pas d'une école de cinéma, il ne vient pas du Sérail, mais il vient de la philosophie. Il a longtemps étudié à l'université, il creuse l'histoire des religions, puis l'esthétique du cinéma qui deviendra même son thème de mémoire. Et il devient prof de philo à Hazebrouck et... Le cinéma est pour lui une autre manière, peut-être plus amusante, de faire de la philosophie. Alors quand il présente en 1997 son premier film à Cannes, La vie de Jésus, c'est une vraie surprise et un coup de foudre pour beaucoup de critiques. Il repart avec une mention spéciale Caméra d'Or. 2 ans après, son second film L'Humanité rafle quant à lui le grand prix du jury et le double prix d'interprétation masculin et féminin. Et là commence la polémique. On écoute ce qu'en dit par exemple le JT du soir sur France 3. Oh, c'est donc en 1999.
Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un film que l'on n'attendait pas, qui a reçu la Palme d'Or du 52e Festival de Cannes. Rosetta, des cinéastes belges Luc et Jean-Pierre Dardenne, le jury présidé par le Canadien Cronenberg, a pris cette décision à l'unanimité. Double triomphe pour Rosetta, puisque son actrice a reçu aussi le prix d'interprétation féminine. Michel Vial, Benoît Véran.
Palme d'Or. Rosetta de Luc et Jean-Pierre Dardenne.
Une palme d'or inattendue s'il en est, la première en tout cas pour la Belgique. Loin des strass et des paillettes, le jury du 52e festival a couronné un film âpre, un drame social proche du documentaire.
Je vais essayer d'être aussi simple que le film qu'on a essayé de faire. Et je vous remercie beaucoup d'avoir aimé Rosetta.
Rosetta qui vaut également à sa comédienne Émilie Dequesne le prix d'interprétation féminine.
C'est difficile, pardon. Je reprends mon souffle une seconde. Là déjà, je voudrais embrasser ma famille qui doit certainement me voir à la télévision.
Un prix décerné ex aequo à une autre comédienne non professionnelle, Séverine Canel, interprète du second triomphateur de la soirée, L'Humanité de Bruno Dumont, également grand prix du jury et dont le comédien Emmanuel Chautet obtient le prix d'interprétation masculine.
Ce qui est important, c'est que ce cinéma-là existe encore, cette espèce de folie qui font que les cinéastes sont des hommes qui marchent devant les publics et pas derrière, et qui inventent des mondes et qui tendent les mains aux spectateurs.
Ben moi, c'est le palmarès le plus absurde que j'ai vu à Cannes. Je ne comprends rien. En fait, on avait tout dans nos prédictions, mais et pour cause, parce que vraiment, je crois que le jury s'est complètement gouré. Il me semble que c'est un cauchemar à la Cronenberg.
Je suis très consterné, même. Surtout pour les comédiens.
Je ne pense pas que dans les films qui ont été primés, il y en a qui vont vraiment sortir les gens de chez eux pour leur donner envie d'aller au cinéma.
Exception faite pour Pedro Almodovar, prix de la mise en scène et pourtant plébiscité par les spectateurs et les critiques. Le jury 99 a en effet résolument joué la marginalité. En primant un cinéma certes novateur dans sa forme, mais rugueux, voire indigeste sur le fond, David Cronenberg, dont la voix est prépondérante, demeure fidèle à son goût pour la provocation et à la couleur grise d'une fin de siècle en quête de repères. Un jeu dangereux, conçu sans doute au détriment d'un public pour qui le cinéma constitue encore le dernier remède contre l'amorosité.
Ouais, c'est assez rigolo d'entendre la marginalité en parlant des films des frères Dardenne qui aujourd'hui remplissent quand même les salles en France en tout cas. Alors pour Bruno Dumont, pas de chance, il présente son film en même temps que l'affaire Dardenne, donc ça, c'était too much quoi, pour la critique. Deux films rudes, deux films sociaux, enfin, c'est pas du tout la même chose, parce que le cinéma de Dumont, si il prend les masques du film réaliste, n'est pas du tout ancré dans la réalité, c'est du cinéma vraiment fantastique, c'est lui qui le dit. Bon alors rugueux, indigeste, voilà, il n'empêche que Bruno Dumont bah, creuse son sillon et continue, et son troisième film 29 Palms est encore moins aimable. Alors qu'on voyait déjà une œuvre ancrée au nord toute, ce troisième long métrage nous amène dans le désert américain. Le film commence, un homme dans sa voiture, sa compagne endormie sur le siège arrière, il est photographe en repérage dans le désert. Elle aime et l'accompagne dans ce road trip. Ils font l'amour beaucoup et peu à peu, une tension s'installe d'abord dans le couple pour ensuite s'échapper de ce huis clos et terminer vraiment en thriller. Complètement à contre-courant de ce synopsis, on va écouter la magnifique musique d'ouverture du film du japonais Takashi Hirayasu et de Bob Brosman, Akasun Dunchi. Totome onjomagai mense ga iri no omikai ga ni wa kuigaru onjomense Thank you. Born de pacifier, hein, cette joyeuse guitare hawaïenne de Bob Brosman n'annonce pas du tout un film joyeux, mais plutôt un film habité d'une violence palpable, bien qu'il ne se passe quasiment rien les trois premiers quarts d'heure du film, enfin les trois quarts du film plutôt. Puis, justement, cette fin, le film bascule dans l'horreur ou le grotesque. C'est à voir, peut-être le grotesque annonciateur de la suite de Bruno Dumont. Dans 29 Palms, le désert ne semble rester désespérément habité que par les obsessions de Dumont. Comme s'il était allé voir ailleurs s'il y était et que nous nous voyions contraints de lui révéler la banale réalité. Oui, il y est, lui, et rien d'autre. Un long voyage pour pas grand-chose, pourra-t-on penser, mais peut-être aussi une étape nécessaire dans l'évolution d'un cinéaste singulier. Effectivement, Bruno Dumont évolue, continue, et 2003, retour au nord, dans la Flandre, avec le film du même nom, Flandre, et un film de nouveau présenté à Cannes, avec encore un prix, le Grand Prix. Et là encore, le film divise, écoutons...
Deux films français figurent au palmarès du Festival de Cannes avec le prix d'interprétation masculine collectif décerné aux acteurs d'indigènes et le grand prix du jury qui revient à l'inclassable Bruno Dumont pour Flandre, l'histoire de jeunes français du Nord corrompus par l'atrocité de la guerre. Le film a divisé la croisette. Dominique Poncet, Olivier Thiette.
So the grand prix goes to... Le grand prix Flanders.
Revient à Flandre.
By Bruno Dumont.
Il a raté de peu la Palme d'Or. Mais il est quand même arrivé jusqu'à l'avant-dernière marche du podium. Et pourtant, quand une demi-heure avant, Bruno Dumont avait monté les marches du palais dans l'indifférence générale, personne n'aurait parié un euro sur l'avenir de son film. Estampillé Grand Prix du Festival, Flandre peut maintenant espérer faire le tour du monde.
Un prix, ça sert à s'ouvrir sur l'étranger, ça sert, si vous voulez, à trouver des distributeurs, ça sert à dire, tiens, on remarque un prix, et à partir de ça, le film voyage. Et, mon rêve, c'est ça, c'est de voyager avec mes films, d'aller au plus près des gens.
Pour de nombreux cinéphiles cannois, la présence de Flandre au palmarès a dû être un choc. Beaucoup, en effet, avaient rejeté cette œuvre sur les ravages psychologiques de la guerre. Tournée sans moyens, sans aucun acteur professionnel... esthétique radicale, privilégiant la fixité des plans et le minimalisme des dialogues.
Flandre est un film qui est radicalement doux aussi, donc c'est aussi une radicalité qui ne doit pas faire peur, c'est une radicalité qui essaie justement de faire sentir cette étendue qui est un être humain, à savoir la gravité sûrement, mais la légèreté, la douceur, la poésie.
Loin, très loin de la démarche solitaire et singulière de Bruno Dumont, l'équipe d'indigènes. Elle a décidé de célébrer en chanson son prix d'interprétation collective pour indigènes.
Venant des colonies pour sauver la patrie.
Indigène, le film de Rachid Bouchareb, qui rend hommage aux 130 000 hommes venus d'Afrique du Nord qui s'étaient enrôlés dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il n'y a pas de vie sans idéologie et sans conscience politique, c'est pas possible.
Hier soir, sous les palmiers cannois, le cinéma français a donné au monde une belle leçon de fraternité.
Oui, voilà, alors une récompense dans l'indifférence générale, manifestement. Là, ça a du mal à passer. Hein. Bruno Dumont ne plaît pas au grand public. En tout cas, on veut faire croire que Bruno Dumont ne plaît pas au grand public. Bon, mais lui s'en fiche. Il continue sa trajectoire. Et 2009... Adevitch sort sur les écrans. Là, cette fois-ci, Bruno Dumont investit Paris et sa banlieue. Il va s'intéresser au fanatisme religieux et en donnant encore une fois un film déroutant, mais qui trouve ou qui retrouve la faveur des critiques dans ce film qui a des moments de crasse assez forts. On va écouter un extrait dans lequel Céline Adevitch, donc la jeune héroïne amoureuse du Christ, vient se recueillir dans une église. Et dans cette église, un ensemble vient répéter la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. En sortant, son amie Yacine l'appelle et elle l'invite à venir manger chez elle avec ses parents. Seulement Yacine, lui, vient de la banlieue. Et Céline, elle, grandit dans les beaux quartiers de Paris. Yacine est celui qui va l'amener, sans le vouloir, mais va lui faire rencontrer l'intégrisme islamiste dans lequel Céline va s'engouffrer. Et donc, on va écouter cette scène après le morceau de musique. Donc, la scène du repas, qui est quand même assez, assez drôle.
Allô? Bonjour, c'est qui? Ah oui, 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 oui. Ça va? Ça va, et toi? Ça va? Si tu veux, tu peux venir manger chez moi. Si tu veux, tu peux venir manger chez moi. J'habite sur l'île Saint-Louis, 17 quai d'Anjou. Tu vas aussi? D'accord. Ok. Ok. À tout à l'heure.
On peut faire ça un jour. Un autre jour, on me demandera de faire autre chose. Je suis qu'un technocrate.
Où habitez-vous, Yacine ?
Moi, j'habite en banlieue. Qu'est-ce qu'il y a ?
Rien.
Tu as un travail actuellement ?
Non. Je sais pas.
Et est-ce que tu as suivi une formation professionnelle, peut-être ?
Non.
Ah bon ? Peut-être tu vis avec quelqu'un ? Peut-être qu'il peut te conseiller également ?
En fait, ouais, je suis avec mon frère.
Ah bon, mais c'est bien.
Papa, ça veut rien dire ce que tu dis.
Oh, écoute,
ah bon ?
Je lui pose des questions, je m'intéresse à lui.
Tu m'as dit que tu m'emmenais.
Excusez-moi, ça.
Ben voilà.
C'est pas grave.
Voilà, c'était donc un extrait d'Adevitch. Et Adevitch, c'est le nom d'une poétesse et mystique flamande du XIIIe siècle. Donc, on n'est pas trop loin du Nord, même si le film est tourné à Paris. Et 2 ans après, le religieux, il en est encore question dans un film encore plus radical, Hors Satan. Un film resserré, intense. Bien sûr qu'il va diviser encore et toujours. Cette fois-ci, on va accuser Bruno Dumont de faire du Bruno Dumont. Eh bien, moi, c'est justement avec Hors Satan que j'ai découvert ce réalisateur dans un cinéma à Contis-Plage, au bord de l'océan, à l'occasion de journées professionnelles. C'était en septembre, il fait beau, chaud, le vent, les dunes. Et tout ça fait écho au film de Bruno Dumont qui se passe encore une fois dans les Flandres. Et je me rappelle très fortement de cette impression d'être complètement immergé dans ces paysages avec ce bruit du vent permanent dans le film. Le film, d'ailleurs, a des dialogues très restreints et n'a pas de musique extérieure, pas de musique rajoutée. Et aucun son n'a été réenregistré, ni modifié, ni ajouté. Et il est même possible, paraît-il, d'entendre les rails de travelling et la mise au point de l'objectif. Et voilà, et donc je me souviens aussi d'une salle partagée. Alors, il y avait ceux qui connaissaient, venaient retrouver un réalisateur aimé, ceux qui découvraient comme moi, et donc parmi nous, ceux qui détestaient. Et ce, sous le charme, ou plutôt sous le choc, comme moi je l'ai été. On va écouter Bruno Dumont nous parler d'Hors Satan.
Les vestiges chrétiens, c'est les vestiges de notre culture, hein, où le christianisme est totalement imbriqué dans la représentation. Donc je pense que la seule façon de s'en dégager, c'est de passer à travers lui et d'aller plus loin. Et j'ai l'impression qu'Hors Satan le fait beaucoup mieux encore, c'est-à-dire qu'il a, c'est un film qui est quand même un espèce de film un peu moyenâgeux, un peu mythique, qui serait le premier film d'un nouveau monde qui se serait débarrassé de Dieu quand même. C'est un espèce de naturalisme à cause de l'acteur, du son, des décors, mais en fait c'est complètement surréaliste, c'est-à-dire c'est les plans, même le montage, c'est-à-dire que la durée, tu vois, il y a des scènes qui ont lieu, c'est trop long en fait, c'est-à-dire il y a une scène où il tue au début du film, là, quand il tue le beau-père, le temps, entre le moment où il tire et le moment où l'autre est tué, si tu veux, le temps n'est pas bon en fait, c'est trop long. Bon, ça m'intéresse, c'est-à-dire c'est altéré. Et cette altération, je la trouve fantastique. Donc le cinéma, il a une capacité d'amplification et de vision, en fait. C'est-à-dire qu'il peut traverser le banal, si tu veux, et lui donner une valeur absolument... Donc de filmer des choses extraordinaires, ça ne m'intéresse pas. Donc j'essaie, tu vois, d'aller dans l'ordre des choses, et je pense que... J'attends que ça vienne, en fait. Il ne faut pas que ce soit trop pensé, il ne faut pas que ce soit trop bien filmé, c'est éteindre tout ça pour que ça ait l'air de rien. Les grands films de cinéma ont l'air de... Non, c'est vrai, les grands films de cinéma ont l'air de rien. Donc tout l'art, c'est l'équilibre. Donc, trouver un équilibre entre le sujet, le scénario, l'acteur, la photo, etc. Donc la seule façon de faire ça, c'est de ne pas trop dialoguer. Ou alors s'il dialogue, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Enfin, des trucs très 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 simples. Et il ne dit jamais ce qu'il pense. Donc ça, c'est un choix délibéré. C'est-à-dire, je ne veux pas des acteurs qui pensent. Parce que je sais que le spectateur, lui, il est pensant. Lui, il est prêt à comprendre, etc. Donc ça m'intéresse de... Et puis je prends en compte le spectateur. Je sais qu'il y a un spectateur qui est là. Donc il y a plein de choses que je peux ne pas faire puisqu'il est là. Donc pour éviter la redondance, bah, y a des mots que j'enlève. délibérément. Le film, dans le scénario original, il est très dialogué. Donc l'absence de dialogue, c'est le résultat des prises, en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin de soustraire, de façonner la scène, donc il faut qu'il ait du grain à moudre. Donc il parle. Je dis, ça t'enlève, deuxième prise, ça tu dis pas non plus. Et la dernière, je dis, dis rien.
Et voilà, après Hors Satan, où va-t-on retrouver Bruno Dumont ? Eh bien, on va le retrouver dans un film historique, son premier, avec une distribution prestigieuse. La première fois qu'il joue avec des acteurs connus, puisque Juliette Binoche va incarner Camille Claudel, Camille Claudel 1915. Bruno Dumont dit que pour incarner une artiste, il lui fallait une artiste, d'où le choix de Juliette Binoche. Et Camille Claudel, 1915, marque vraiment un accomplissement dans la carrière du cinéaste, en pleine possession de ses moyens et même un dépassement. Bruno Dumont s'affranchit des frontières et de certains signes de reconnaissance de son cinéma, comme l'ancrage contemporain, les territoires du nord de la France, un goût pour le mutisme et la sauvagerie, et le recours donc exclusif à des comédiens non professionnels. Et libère ainsi une puissance expressive et émotionnelle encore plus grande. On suit quelques jours dans la vie de cette femme, d'une femme folle, tout entière mobilisée par l'annonce d'une visite à ses yeux cruciale, celle de son frère cadet, le célèbre Paul, écrivain allumé et grand bourgeois mystique. Tiens donc. Et Bruno Dumont vraiment souhaitait s'intéresser à cette partie. Il dit que c'est la partie la plus obscure de sa vie, celle d'une recluse que l'on ne connaît qu'à travers son dossier médical et sa correspondance. Et c'est vraiment là-dessus qu'il base son film. Et aux côtés de Juliette Binoche et de Jean-Luc Vincent, lui qui incarne Paul, le frère, eh ben, on va découvrir des patientes d'un hôpital psychiatrique et ce sont donc des actrices qui jouent leur propre rôle. Et non seulement les patientes, mais aussi le personnel soignant de l'établissement interprètent tous leur propre rôle, tels qu'ils sont, dit le cinéaste. Voilà, faire jouer des fous, oser les mettre en scène dans un duo du Don Juan de Molière, par exemple, annonce peut-être le burlesque qui suivra. En tout cas, dans cette scène, on entend le rire de Camille Claudel et donc Juliette Binoche.
Mesdemoiselles, le texte, vous le savez par cœur. Maintenant, je veux le ton, les gestes, un Don Juan très galant et une Mademoiselle Charlotte qui se méfie un tout petit peu. En reprend. Allez.
Bonjour, madame la paysanne.
Don Juan, reprenez votre geste. Comme il faut. Galant. Charlotte, reculez-vous un tout petit peu, s'il vous plaît. Voilà, parfait.
Bonjour, madame la paysanne.
Monsieur.
De vous venir.
Village.
Vous appelez.
Charlotte.
Un Don Juan.
Moi, Don Juan. On reprend depuis le début.
Bonjour, madame la paysanne.
Bonjour, monsieur.
De vous venir.
Du village.
Comment vous appelez.
Charlotte.
Un Don Juan.
Vous êtes belle, vous avez de beaux yeux.
Vous avez des beaux yeux, des beaux visages, des réfléchissantes. Donnez-moi votre main.
Non, j'aurais dû laver sans tout ça.
Vous avez des belles mains.
Voilà, c'est la scène 1. Maintenant, nous allons prendre la scène 2.
Bonjour, madame Vézanne.
Non, Don Juan, voulez-vous m'épouser?
Le réserve de me dire de tout, et compris, on repasse tout, on recommence tout.
Non, c'est... on répète pas tout, on prend la scène
d'accord.
2. C'est tout.
Êtes-vous marié?
Non.
Mais bientôt
mais avec...
Mais
bientôt Pierrot.
Mais quoi? Avec la fille des paysans? Jamais, je vous aime trop. Vous voulez me épouser?
Non.
Pourquoi?
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 On reprend. Voulez-vous m'épouser?
Voulez-vous m'épouser?
Oui.
Non, non. Pas tout de suite, pas tout de suite, Charlotte.
Pas tout de suite, pas tout de suite.
Vous voulez m'épouser?
Vous l'avais déjà dit, maintenant c'est le PC. Vous êtes un peu perdu, quoi.
Ouais.
Eh ben, nous reprenons. Allez, nous reprenons. Don Juan, vous êtes bien Don Juan, vous voulez séduire.
Non, à condition que ma tante veuille.
Non. Vous dites simplement, Charlotte, vous dites simplement non.
Non.
Pourquoi?
Parce que vous êtes un courant de jupon et que vous me trompez.
Vous ne vous trompez jamais. Je vous
moi,
aime
vous
trop.
Trompez jamais.
Jamais, je vous aime trop.
Reprenez ça, moi, vous trompez.
Moi, vous trompez jamais, je vous aime trop.
Mais regardez-la. Vous ne vous dites pas ça en l'air, vous la regardez.
Regardez, Charlotte.
Je regarde ce que je fais là.
Vous regardez par terre.
Non, je regarde pas par terre.
Alors, regardez, Charlotte.
Regarde-moi.
Je regarde, j'ai que ça.
Moi, vous trompez jamais.
Vous trompez jamais, je vous aime trop. Vous voulez m'épouser?
Alors reprenez, oui.
Oui, mais...
À condition
que vous ne me trompez pas et que vous ne courriez pas les jupons.
Jamais, je vous aime trop. Vous voulez m'épouser?
Non, donnez-moi un baiser. Approchez-vous, Don Juan, donnez-moi un baiser.
Donnez-moi un baiser.
Pas avant le mariage.
Baisez
votre main.
Après, je vous baiserai autant de fois que vous voudrez.
Baisez votre main.
Je pense que vous pouvez faire mieux.
Après, je vous baiserai
autant de fois que vous voudrez. Le rire de Camille Claudel qui se transforme en larmes. À un instant, puisque cette scène de Don Juan lui rappelle Rodin. Camille Claudel, on est réellement en empathie avec cette femme et un second très beau rôle de femme après Adovitch que Bruno Dumont met en scène. Et puis, fidèle à sa réputation de n'être jamais où on l'attendait, et après Camille Claudel, en 2014, Bruno Dumont bascule dans la comédie et même la série, puisqu'il va réaliser pour Arte une série de 4 épisodes de 52 minutes, Petit Quinquin. Et là, enfin, il fait l'unanimité de la critique. Bon, ce sera de courte durée, mais ça, il ne le sait pas encore. Du rififi chez les ch'tis. Sur son territoire de prédilection, le Boulonnais, Bruno Dumont signe une série policière burlesque et macabre autour d'un irrésistible couple de garnements amoureux. Sur les terrains nouveaux pour lui de la série et du comique, il transplante l'univers cinématographique à nul autre pareil qu'il a fait exister film après film. Un territoire entre mer et campagne, le Boulonnais, magnifié dans de longs plans contemplatifs en scope et des acteurs non professionnels dont les visages parfois ravagés et le parler nordiste semblent indissociables de ces paysages à la beauté méconnue. Mais pour les besoins de sa comédie extravagante et noire, il pousse cette fois ses personnages du côté du grotesque, en un festival de tics, bégaiements et absurdités à couper au couteau. On pourrait y voir une parodie à charge, sans la grâce ravageuse du couple vedette. Dans les pas de Quinquin, le caïd cabossé et de son Ève au doux visage qui se serrent dans les bras l'un de l'autre en s'appelant gravement « mon amour », la poésie contamine la farce, l'enfance subvertit le triste état des choses et le réalisme dérape dans le délire. Alors on va écouter le générique chanté par les enfants.
Comme un petit quinquin, comme un petit bouchon, ma gauche. Tu me feras du chagrin si tu dors prochainement. Ainsi le jour un pauvre dentelière, un ami clouton, un petit garçon, qui puis trois quarts de faisau que bête, tâche au lendemain par une canchon. Et les dix ou ma narcisse m'attarra du pain d'épices, du Chicago, c'était ça, du
comme un petit quinquin, ma petite bouchin, ma gros rosin, te fera du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Ainsi l'autre jour, une pauvre dentelière, un ami glottant, un petit garçon, qui depuis trois quarts d'heure, une paix de brère, tâchons de l'endormir par un canchon. Elle y dit, je mène Narcisse, demain t'auras du pain épice, du sucre à gogo, si t'es sache que te fais dodo. Dors, ma petit quinquin, ma petit pouchin, ma gros rejin, te fera du chagrin, si te dors moins qu'à demain.
Et ensuite, bien entendu, cette année, Maloute qui est encore à l'affiche et que je vous conseille vivement, que vous aimiez ou pas Bruno Dumont, que vous connaissiez ou pas son travail, il faut donc avoir à l'esprit que à chaque fois c'est une proposition différente, surprenante, et il faut se laisser porter. Maloute est un film vraiment extravagant, donc il le dit lui-même, hein, il utilise un microscope, il grossit les traits, mais il reste quand même toujours cette poésie et ces moments de grâce, notamment dans la rencontre entre Billy et Maloute. Et puis, pour terminer cette émission, le rendez-vous habituel, je demande à un invité de me raconter son film fétiche, son film de chevet, celui qui le hante, celui qu'il aime, qu'il admire. Aujourd'hui, c'est donc Romain qui va se prêter au jeu et qu'il va donc me raconter la découverte d'un film de Nanni Moretti, Journal intime, un film sorti en 1993. On écoute Romain nous parler de Journal intime.
C'est Journal intime. Et c'était une époque où moi j'allais au cinéma, j'étais étudiant, j'allais au cinéma entre midi et deux, au lieu d'aller bouffer, j'allais au cinéma. Et j'ai essayé de me souvenir pourquoi j'avais commencé à faire ça, et je ne suis pas capable de m'en souvenir. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, toujours est-il que j'ai découvert ce film-là. Donc j'allais tout seul au cinéma, j'avais personne autour de moi qui allait au cinéma comme ça. Et voilà. Et donc moi, j'avais l'impression d'avoir découvert un truc de fou avec ce film. Voilà. C'est la pépite, c'est une grosse découverte.
À Cannes, les cinéphiles ont retrouvé aujourd'hui avec plaisir le cinéaste italien Nanni Moretti, qui s'était retiré en 91 parce qu'il était gravement malade, qui est aujourd'hui guéri et qui redécouvre la vie, caméra au point, avec talent. Reportage de Nicole Cornu-Langlois et Didier Daran.
Il a tellement eu peur de quitter cette vie qu'il a décidé de profiter vite de tout, de redécouvrir des joies simples. Et même ici, il parvient à fuir les obligations pour une escapade avec nous dans les ruelles du Vieux Suquet, qui ont un peu la même allure que sa balade à Rome en Vespa. C'est le premier volet de la trilogie de ce journal intime qui l'emmène sur la tombe de Pasolini, comme dans les îles éoliennes.
Du coup, c'était un peu comme si j'avais une double vie, quoi, d'aller au cinéma. C'était pas du tout, j'avais personne autour de moi qui avait cette passion. J'allais tout seul au cinéma entre midi et deux, quoi. Et donc j'ai découvert ce gars que je connaissais pas. Le personnage hyper spontané. Enfin, déjà le personnage, quoi, j'avais adoré. Et puis après, à côté de ça, la forme du film, enfin, l'espèce de documentaire, le faux documentaire, quoi. Mais qui est en même temps hyper inspiré de sa vie personnelle. Enfin. Et donc le film, il est séparé en trois. La première partie sur où il se balade en Vespa là, dans Rome. Deuxième partie où il va dans les îles avec un copain prof de philo là, ou philosophe. Et le troisième avec les médecins. Et la troisième partie, c'est vrai que moi, à la limite, je l'avais même pas. J'en ai très peu de souvenirs. J'ai surtout les deux premières qui m'ont vachement marqué. La troisième partie avec les médecins, qui est la plus, je pense, la plus intime pour lui, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il a vécu. C'est moins drôle. Enfin, si, c'est drôle, mais moins, peut-être. Tu sens qu'il y a quand même. C'est plus sérieux, quoi. Alors que les autres sont mélancoliques, mais sont vachement plus rigolotes, quoi. Et voilà, c'est plus spontané. Enfin, moi, voilà, il y a des moments qui sont géniaux, quoi. Et d'ailleurs, il y a aussi, ça, je me souviens qu'il y a vachement de lien avec la danse, quoi. J'adore qu'il soit hyper touché par de rencontrer Jennifer Beal ou de tomber sur Mangano là, à la télé où il refait la chorégraphie, ou de tomber sur le concert de je sais plus quoi de musique caribéenne là, où il se met à danser et à prendre le micro, enfin bon, enfin voilà, ça c'est ouais ça m'a vraiment touché, quoi. Et du coup, je me souviens être retourné, donc j'ai vu à Utopia, et je me souviens être retourné à l'époque, il faisait des ventes d'affiches aux enchères. Et j'étais retourné exprès pour acheter l'affiche, quoi. Enfin, j'étais retourné plein de fois, mais j'étais allé exprès à la vente d'affiches pour acheter cette affiche-là. Et j'avais réussi à la voir parce que personne n'en voulait. Alors qu'elle est géniale, en plus c'est un dessin. On le voit lui de dos là sur sa Vespa. Je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs de cette affiche. Bah, c'est une déambulation dans Rome, on va dire, à Vespa. Un Rome complètement vidé, enfin en plein été là où. Et il en profite pour parler de cinéma, d'architecture, de danse. Il va voir le. Il y a un moment super beau où il va voir l'endroit où a été assassiné Pasolini. Et d'ailleurs, ça aussi, ça m'a introduit à Keith Jarrett. Ce que je connaissais pas, ce morceau est magnifique là où il va voir. Et c'est le seul passage alors qui est filmé où on le voit pas, quoi. On le voit quasiment. Enfin, je sais pas, je me souviens de la fin là où on le voit plus du tout. C'est... Alors que sur quasiment tous les autres plans, on voit que lui, quoi.
Non so perché, ma non ero mai stato nel posto dove è stato ammazzato Pasolini.
J'ai toujours, j'adore le truc spontané, le côté spontané du personnage, j'adore. Voilà, ça m'avait vachement touché. Et d'ailleurs, ce film, je l'avais gardé, je l'avais en VHS, évidemment, à l'époque. Je l'ai gardé pendant super longtemps, je suis sûr que je l'ai encore, quelque part. Et donc, toutes les fois, les premières fois où je l'ai regardé, c'était, où je l'ai re-regardé, c'était en VHS. Super pourri. Mais bon, ça ajoute au charme du film. Je l'ai montré à plein de gens, évidemment, ce genre de film. Les films que tu as l'impression sont des espèces de mythes fondateurs, tu veux les montrer à plein de gens. Évidemment, personne ne réagit comme toi. Et pas du tout, personne n'est touché comme toi, tu peux l'être. Quoi. Non, mais c'est associé à une période. Voilà, c'est arrivé à un moment où je pense que je me posais pas mal de questions, etc. J'étais dans un truc qui ne me correspondait pas. Je pense, hein. Bon, c'est après, c'est un autre débat, quoi. Mais c'est arrivé au bon moment, quoi. Et après, depuis, moi, tous les films de Nanni Moretti, enfin, je suis pas du tout subjectif, quoi. Aucune subjectivité, j'adore. Enfin, il me fait rire ou pleurer. Enfin, en tout cas, tout fonctionne, quoi. Tout ce qu'il fait fonctionne. J'ai l'impression d'être complètement connecté à ce gars, quoi. Bizarrement. Mais depuis ce film, quoi. Enfin...
Fini l'observation corrosive de la société italienne, ses agressions sur la télévision, il se contente d'accumuler des absurdités avec la caméra qui lui sert de stylo.
Cos'è questo film? È la storia di un pasticcere trotskista. Un pasticcere trotskista nell'Italia degli anni 50. È un film musicale.
En réalité, le cinéaste Moretti filme l'individu Moretti avec jubilation et s'amuse même de sa maladie, ou plutôt des médecins.
Le ton et le style de la séquence des médecins sont un peu à l'opposé du ton indigné de certaines émissions de télévision. J'ai voulu raconter mon histoire parce que je pense avoir trouvé un ton juste, pas complaisant avec moi-même, pas sadique avec les spectateurs et pas morbide avec la maladie.
Un film anticonventionnel dans lequel il avance à visage découvert. Et c'est ce qui fait sa force.
Ah oui, il y a un passage génial où... où il va voir un film italien là, en salle, où il s'emmerde et il commente en direct à voix haute le film. Attends, à l'écran, je crois que les personnages disent qu'ils sont devenus moches ou je sais pas quoi, moches et bêtes, et que lui, il se reconnaît pas du tout là-dedans. Il trouve qu'il a un quarantenaire hyper beau. Et... Si tu veux que je siffle le... etc. Ellie fait sa petite chorégraphie dans le café en attendant son jus d'orange, son orange pressé. C'est le passage où il tombe sur un extrait d'un film qui a l'air complètement fou là, avec Sylvana Mangano, une comédie musicale. Il est complètement obsédé par les comédies musicales. Et derrière, il reprend ce... À un moment, il essaye de rentrer dans un immeuble où il rentre dans un immeuble en expliquant qu'il fait des repérages pour une comédie musicale d'une histoire d'un pâtissier trotskiste dans les années 50. Et oui, qui reprend après, je crois, dans Aprilé, dans le film d'après, où il le tourne, je crois. Il me semble qu'il tourne ce film, où il essaye de le tourner. Je me souviens plus trop Aprilé, je l'ai vu qu'une seule fois.
Dans le studio. Merci Romain pour ce film résolument romain. Il n'y a peut-être pas de hasard. Cinématoc, ça se termine, c'est terminé. Bien, revoyez donc les films de Nanni Moretti et puis allez voir Maloute, par exemple. C'est encore au cinéma. Vous pouvez aussi revoir toute la filmographie de Bruno Dumont disponible en DVD. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine.